Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous nous approchons de toi, Père, pour bénir ton saint nom et te dire merci pour ce jour que tu nous donnes. Sachant, Père éternel, oh Dieu, que la vie procède de toi, et il t'a plu de nous conserver la vie de ce côté ici du temps, et nous te bénissons pour cela. Maintenant, Père, alors que nous sommes assemblés dans le nom de Jésus-Christ, puisse tes bénédictions, Père éternel, oh Dieu, remplir ces lieux et dans chacun de nos Père éternel, oh Dieu. Alors que nous allons, oh Dieu de miséricorde, lire ta parole, oh Dieu, alors que nous allons, Père, partager ces quelques moments, puisses-tu nous éclairer, Père éternel, oh Dieu. C'est toi qui révèles, c'est toi, Père éternel, qui éclaire. Aussi, nous avons besoin que tu nous guides, que tu nous soutiennes, que tu nous fortifies. Merci pour tout, Père éternel. Purifie nos cœurs, Père éternel, oh Dieu, et accepte-nous en ta présence selon ta grande miséricorde, Père. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la sagesse au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Il y a des lois ou des principes qui régissent le fonctionnement de l'univers, le fonctionnement de chaque entité sur la terre, le fonctionnement de chaque être. Ces lois portent le sceau de Dieu et sont inscrites dans chaque créature de Dieu. Les hommes ont fait des recherches pour comprendre ces lois afin de les modéliser et même de créer des systèmes basés sur la compréhension de ces lois. Et c'est parce que ces lois sont immuables et régulières que l'homme peut les comprendre jusqu'à un certain niveau. Tu peux trouver tant d'exemples des inventions humaines inspirées de ce que Dieu a créé, car tout commence par imitation. Ici, je vais citer un exemple, il y en a tant d'autres. Hein. Donc, l'exemple ici, que tout le monde connaît, l'avion. Parfois, on dit l'avion, mais on ne se rend pas compte que l'avion est une abréviation qui signifie oiseau volant imitant l'oiseau naturel. Donc, appareil volant, oui. L'oiseau ? Appareil volant, merci. Appareil volant imitant l'oiseau naturel. Ça veut dire que tout ce que l'homme fait, il imite ce que Dieu a fait. Bien, l'avion vole parce que l'homme a su comprendre les lois que l'oiseau utilise, probablement naturellement sans le savoir, pour voler, car cela est en lui. Basé sur ces lois, l'homme a donc fabriqué l'avion, un système assez complexe. Souvent, nous louons les inventions humaines, mais qu'en est-il de celui qui a créé ces lois et donner de l'intelligence à l'homme? Nous sommes émerveillés devant ces inventions, mais nous ne sommes pas émerveillés devant la nature et les choses que Dieu a créées. Oh, que c'est regrettable! N'est-ce pas à Dieu, le Créateur, que toute la gloire devait aller? Nous sommes émerveillés devant l'intelligence humaine, mais nous ne sommes pas émerveillés devant celui qui a donné cette intelligence, ni devant son intelligence et sa sagesse. Et c'est bien regrettable. N'est-ce pas à Dieu le Créateur que toute la gloire devait aller? Les choses naturelles sont tellement naturelles que nous n'y faisons plus attention. Par exemple, chaque lever du soleil, chaque fois que tu respires, devait t'arracher un « wow », un émerveillement de remerciement. Les frères parlent souvent de la mer. Quand il y va, il voit Dieu. Mais chacun voit Dieu dans ce que Dieu a mis dans son cœur à voir. David a dit un jour, c'est dans Psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. » Il ne faut jamais oublier, ne l'oublie jamais, tu es une créature merveilleuse. Ne te néglige pas, ne laisse rien venir ternir cette merveille que tu es. David a terni un jour cette créature merveilleuse qu'il était en commettant adultère avec Bathsheba et en tuant son mari. Il en a pleuré et s'en est repenti. Il suffit de lire le psaume 51. Même si la boue et la puanteur l'avaient couvert, sa repentance l'a lavé complètement. Et il a été à nouveau oint d'une huile sainte. Dieu lui a conservé des grâces assurées. C'est Dieu qui attire. Nul ne vient à moi si, ce n'est si le Père ne l'attire. Dieu ne veut pas que tu viennes à lui par toi-même, par ta propre volonté. Tu viendrais peut-être par peur de l'enfer et pas par amour. C'est lui qui attire et pas autrement. L'image n'est pas la bonne, mais c'est pour faire comprendre les choses. Ce serait comme une femme qu'un homme désire épouser, ou une femme qui veut épouser un homme, alors que l'homme n'est pas intéressé et n'a aucun attrait pour elle. Cela, dans la plupart des temps, sans une femme en détresse, d'amour peut-être, ou de mariage, ou même d'autres situations. Cet homme ne va pas vraiment l'aimer. Et pour la femme, quand il sortira de cette détresse, ce sera comme un réveil d'un cauchemar. Elle se rendra bien compte que ce n'était pas l'homme qu'il lui fallait. Bien, c'est pourquoi les églises sont remplies de membres d'assemblée, des sympathisants qui viennent chercher autre chose que Dieu. Par exemple, la compagnie, la socialisation. Mais Dieu n'est pas vraiment leur souci. Qu'est-ce que la Bible dit dans Luc 12? Luc 12, à partir du verset 31 jusqu'à 32. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il est dit, cherchez le royaume de Dieu. Mais chercher le royaume de Dieu, où vas-tu le chercher? Pour chercher quelque chose, il faut d'abord savoir ce que c'est, comment est la chose, à quoi elle sert et où on peut la trouver. Tu ne peux pas chercher quelque chose qui n'est pas en toi. Jésus parle d'un petit troupeau, pas d'un grand troupeau. C'est à celui-là qu'est donné le royaume. Remarquez, c'est un don. Normalement, on ne demande pas un don. Un don est l'expression visible d'un cœur qui donne, qui veut donner librement, sans contrainte. C'est Dieu qui veut te donner le royaume. Mais c'est aussi à toi de prendre, c'est aussi à toi de les prendre si tu en connais la valeur. Et c'est cela la foi. C'est donc Dieu qui fait le premier pas. C'est lui qui vient premièrement à toi. Il y aurait moins de problèmes si c'est Dieu qui attire. Dans Jean 6, 44, le Seigneur Jésus dit: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est le Père qui attire. Je répète cela, c'est le Père qui attire. Tu ne peux pas venir à lui par toi-même, par ta propre volonté. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si c'est Dieu qui attire? Ben, c'est attendre Dieu. C'est la seule chose à faire. Parce que c'est lui qui attire. Bien. Résumons-nous. On a parlé de l'avion. Un modèle est une représentation matérielle ou immatérielle de la structure, des lois ou du fonctionnement de quelque chose de plus complexe dans sa structure et dans son fonctionnement. Tu peux même avoir plusieurs modèles pour une même réalité. Ils dépendent souvent de la compréhension qu'on a des phénomènes et des principes qui sous-tendent cette réalité. Le modèle que Dieu a donné à Moïse, c'est le tabernacle. Image du tabernacle céleste. C'est le premier modèle que Dieu a donné avec autant de détails et de précisions. Le tabernacle est le modèle par excellence pour saisir tant les réalités spirituelles que les réalités terrestres. Si tu comprends la structure et le fonctionnement du tabernacle et les lois concernant les services, la pureté, les sacrifices et les offrandes, les fêtes, tu comprendras alors ce que Dieu exige pour ses enfants. Et toute la création de Dieu est basée sur ces modèles-là. On verra peut-être aujourd'hui un exemple. Un modèle est aussi appelé une ombre, une image, un type de quelque chose de plus grand. Dans Hébreux 8, verset 4, il nous est dit, « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. » D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il s'agit de Jésus-Christ, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dieu a donné ce modèle parce qu'il est capital. Toute la Bible est remplie de types, d'images, et des ombres. Il est souvent dit, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. C'est sous cet angle que la marche des enfants d'Israël peut être considérée comme une ombre de la marche des croyants du Nouveau Testament. Paul dit que ces choses écrites d'avance l'ont été pour notre instruction. C'est dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Instruis-toi par ce qui a été écrit en avance. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Car Dieu veut que tu possèdes l'espérance. Et celle-ci naît par la consolation et la patience que donnent les Écritures. Les Écritures, ce sont des écrits. Et les écrits, il faut les lire. Si l'apôtre parle de la consolation, c'est qu'il t'arrivera d'être abattu. Mais les Écritures seront ta consolation. S'il parle de patience, c'est qu'il y aura des épreuves et des combats qui peuvent durer plus longtemps. Mais ne te décourage pas, car les Écritures te donnent la patience de supporter cela sans murmure, mais dans la confiance en Dieu. C'est parce que Dieu a mis son empreinte dans sa créature qu'on retrouve les mêmes sceaux, les mêmes structures répétitives, les mêmes schémas, tant dans les systèmes macroscopiques, par exemple les astres, etc., tout comme dans les systèmes microscopiques, au niveau de l'atome. J'avais lu une fois un frère, probablement il est un frère, qui avait parlé du tabernacle et qui disait que le tabernacle est comme les tableaux de Mendeleïev, pour ceux qui ont fait un peu la chimie. Et il montrait que tous les éléments, que ce soit les éléments, l'acier, le fer, les gaz rares, par exemple, l'azote, oui, l'azote, ou alors l'hélium, je pensais à l'hélium, ou alors l'hélium, et il a mis ça, il a fait ça dans les tabernacles. Et il a montré que tout cela se trouve dans les tabernacles. Mais c'est Dieu qui lui a révélé cela. Il y a des choses parfois très étonnantes. Donc je disais que le modèle permet de saisir une partie de la réalité selon l'angle sous lequel tu le regardes. Car la réalité est toujours complexe. Et le modèle biblique pointe et révèle toujours Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, reconsidère ton modèle. Le 14 février, nous avons parlé ici de Ramsès à Gilgal et de Gilgal à la gloire. Il s'agissait du schéma qui parlait de l'exode des enfants d'Israël jusqu'à la terre promise et de l'enlèvement d'Élisée. J'avais promis qu'un jour on reviendra sur ça. Nat, tu peux projeter l'image en question? Pour ceux qui peuvent s'en souvenir. Oh, mais. Ah oui, je ne sais pas pourquoi il est si sombre. Vous pouvez voir, mais ce n'est pas très, très clair. Il y a normalement des barres et il y a des lignes, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas fait attention. Pourquoi il est. Mais de toute façon, vous voyez, je crois. Non, tu peux éteindre, sinon ça sera difficile. Donc. Ici, c'est Ramsès, c'est là d'où sont partis les enfants d'Israël. Après trois étapes, Après trois étapes, ils sont arrivés à la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge et ceci, c'est le désert. Juste après le désert, ils ont traversé le Jourdain et ils sont arrivés à Gilgal. Et on avait vu qu'au début, il y avait le sang, c'est l'agneau qui devait être immolé. Et ici, c'était l'anniversaire de ce qui avait été fait en Égypte. C'est la Pâque, hein? C'est la fête. Et oui, on peut appeler ça anniversaire de ce qui avait été fait en Égypte. Ensuite, on avait vu une deuxième partie qui était le voyage d'Élisée pour l'enlèvement. Il était parti de Gilgal, il est passé par Bethel, il est passé par Jéricho. Ensuite, ils ont traversé le Jourdain. Et puis, lui est monté et... C'est Élie est monté et Élisée... Oui, désolé, c'est Élie, hein, l'enlèvement d'Élie. Donc, Élie est monté et Élisée est revenu continuer le travail commencer par Élie. Décidément, je ne sais pas pourquoi c'est Élisée qui vient en tête. Et on avait vu que entre Ramsès et Gilgal, il y avait 42 étapes. Pour ceux qui se souviennent encore, il y avait 42 étapes. Et on avait dit que pour la femme, lorsque elle est entre la période où elle a ses dernières menstruations et la période où elle accouche, il y a 42 semaines. Hein? 42 semaines. Pardon? Ah oui. Il y a 42 semaines. Et on avait aussi vu, on lira ça plus tard, que entre Abraham et Jésus-Christ, il y a 42 génération. Donc, 42, on avait vu ça, 42 peut correspondre au temps de gestation de la femme pour avoir un bébé.
Il y a les 2 semaines qui sont avant, si vous voulez, la fécondation. Mais on reviendra peut-être un jour sur ça, si Dieu le permet. Donc, la femme est le réceptacle de la vie. Oui, on avait dit ça. Et l'homme est la source de la vie. Tout comme Dieu est la source de la vie, et l'épouse est celle qui doit engendrer, qui doit procréer. Donc, on voit ici la comparaison entre le naturel et le spirituel. Bien. On voit donc que les 42, c'est un nombre qui correspond au temps des gestations. Et on retrouve les 42 dans pas mal de trucs dans la Bible, hein. Ce sont des schémas. Bien. Donc, il est aussi démontrable que Jésus a enseigné pendant 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, j'ai fait le calcul à la maison, vous pouvez me faire confiance. 3 et demi fois 12 mois, ça fait 42. 42, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, le temps du ministère du Seigneur Jésus-Christ est comparable au temps de gestation de la femme. Et c'est comme ça, quand le Seigneur va mourir, il va donner naissance à l'épouse. Donc, on voit que c'est exactement la même chose qui se passe dans le naturel, tout comme dans le spirituel. Bien. Donc, quand on regarde cela, on voit que Dieu a mis toutes ces choses pour que nous comprenions ce qui se passe. Ce sont des schémas que Dieu a mis pour que ces choses, nous puissions les comprendre. Et comme c'est le temps de gestation, ça veut dire Jésus-Christ est donc venu pour la première fois comme dans une condition féminine, parce qu'il devait engendrer l'épouse, il devait accoucher de l'épouse, entre guillemets, pour que nous comprenions. Il devait accoucher de l'épouse. Et comme j'ai dit, tout est lié au 42. Et le fait que Christ puisse donner naissance à l'épouse, c'était la seconde fois qu'un homme accouchait. Le premier étant Adam. Parce que Ève est sortie, ou la femme est sortie d'Adam. Et de Christ est sortie l'épouse, le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. À sa seconde venue, il viendra en tant que roi, comme dans une condition masculine. Il viendra pour régner et toutes les nations lui seront soumises. Je disais tout à l'heure qu'il y a 14 générations. Ça, vous pouvez lire ça dans, je crois, dans Matthieu. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et quand vous avez 3, 14, 42. On peut dire en quelque sorte que l'humanité a donné naissance au travers de Marie à Jésus-Christ, la semence de vie promise à Abraham dans la chair et manifestée en Jacob, dont le nom fut changé en Israël. Remarquez, Jacob est le troisième patriarche. Le troisième patriarche, vous retrouverez ceci, il y a trois étapes avant la mer Rouge. Ce sont des types, hein, que Dieu met. On peut aller encore beaucoup plus profonde. Je suis en train de revoir si je n'ai pas sauté quelque chose. Et c'est de Jacob que vont naître les 12 tribus qui vont devenir le royaume uni d'Israël. Et Jésus va naître de Judas, le quatrième fils de Jacob. Et cela montre que l'humanité, cela nous montre l'humanité de Jésus-Christ. Il est parfaitement homme. C'est pourquoi ce temps ici nous donne l'indication, parce que ça, c'est le temps de gestation de la femme. Et donc, Christ, en naissant, devait être parfaitement homme. C'est pourquoi il est le médiateur entre l'homme et Dieu. Dans 1 Timothée 2, à partir du verset 3 et 4, il est dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Le passage du Jourdain correspond donc à une nouvelle naissance, la naissance du peuple d'Israël. C'est à Gilgal que Dieu a roulé l'opprobre de l'Égypte de dessus des enfants d'Israël. C'est là que la mort du vieil homme était actée et la nouvelle vie pouvait maintenant commencer. Donc ici, il rentrait dans la terre promise. Ceci, c'est déjà dans la terre promise. Et donc, l'ancienne vie de l'Égypte était derrière eux, tant physiquement que spirituellement. C'est pourquoi Dieu dit qu'il a ôté tout l'opprobre de l'Égypte de dessus eux. Et une chose encore, c'est que l'ancienne génération qui est sortie de l'Égypte est morte dans les déserts. C'est la nouvelle génération qui est rentrée dans la terre promise pour nous montrer qu'il s'agit bien d'une nouvelle naissance. C'était un nouveau bébé qui était, entre guillemets, qui était né ici, qui est Israël en tant que nation. Lorsqu'on parle de naissance, il faut qu'il y ait une semence. Et chaque semence va produire selon son espèce. Aussi vrai que la semence de l'homme produit l'homme, la semence de Dieu produira Dieu. Le Père et le Fils ont la même nature. Et pour qu'il y ait naissance, il faut deux. Une semence mâle et une semence femelle. C'est ce principe qui régit la vie de tout ce qui vit. C'est une loi divine. Si l'enfant de l'homme naît de la rencontre entre la semence mâle et la semence femelle, si l'enfant de l'homme naît de la rencontre entre l'homme et la femme, l'enfant de Dieu naît de la rencontre entre Dieu et l'homme. C'est cette rencontre personnelle qui est indispensable. Et tu dois passer par le processus que toute femme qui attend un bébé doit passer. Aucun homme ne peut faire de toi un chrétien ou une chrétienne. Aucun. Tu es l'artisan de ta propre vie. C'est toi qui dois croire et personne d'autre à ta place. Dieu ne va pas t'obliger à croire. Mais c'est Dieu qui est l'initiateur, celui qui t'a choisi comme un homme choisit une femme. Et c'est à la femme de dire oui ou non. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Très important d'être choisi par Dieu et de répondre par oui. Parce que la condition qui est là, afin que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Je disais, Dieu ne forcera jamais personne. C'est à toi de dire oui. Et Marc 16, 16 nous dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Personne ne peut être sauvé sans sa volonté. Et le salut passe par une naissance. Je disais tout à l'heure, qui parle de naissance, parle de sang. Nous n'allons pas nous étendre sur cela aujourd'hui. Quand ça sera possible par la grâce de Dieu, nous entrerons dans les détails de ces schémas pour parler de la vie humaine. Ce qu'on voit ici, c'est la vie humaine de la conception à la naissance. Et si Dieu le permet, on verra que lorsque les enfants d'Israël ils ont traversé la mer Rouge, à Mara, Dieu leur a donné la loi et les ordonnances. Mais après l'avoir donné les lois et les ordonnances, ils sont arrivés au mont Sinaï où Dieu leur a parlé. Et où Moïse était monté à la montagne. Hein? Moïse était monté à la montagne. Et Moïse a eu les tables de la loi. Gardez seulement que ici ils ont eu, à Mara, ils ont eu les lois et les ordonnances. Mais là, ils ont eu... Oui, disons quelque part là, hein. C'est comme ici, j'ai resserré pour donner un peu plus de place. Donc, il y a Mara et il y a le mont Horeb. Ce sont deux étapes qui sont indispensables quand la femme doit être enceinte. Mais Dieu, si Dieu le permet, on y reviendra la fois prochaine. Je suis en train de montrer que les choses que Dieu a créées, ou les choses que nous pouvons voir au niveau de la créature de Dieu, c'est ce que Dieu a établi dans le ciel comme loi. Parce que ici, ce sont des types. Donc, pour terminer, si tu regardes la nature et tu ne vois pas Dieu, alors regarde à nouveau. Et surtout attentivement. Tout dans la nature parle de Dieu. Si tu regardes une femme, sa grâce, sa féminité, ses courbes fluides, et que tu ne vois pas Dieu, regardez à nouveau et attentivement. Si tu regardes l'homme, sa force physique, sa masculinité et sa carrure, et que tu ne vois pas Dieu, alors regarde à nouveau attentivement. Bénis Dieu pour la nature, la terre et tout ce qu'elle renferme. L'homme et la femme, car tout parle de lui. Quand tu regardes Israël, son histoire glorieuse mais aussi chaotique, sa renaissance, ses détresses, ses combats, et si tu ne vois pas Dieu, alors regarde Israël attentivement et certainement tu verras Dieu. Quand tu regardes les tabernacles et si tu ne vois pas le ciel, alors regarde à nouveau attentivement les tabernacles. Car les tabernacles étaient les modèles sur terre du tabernacle céleste. Tout sur la terre, les choses naturelles, est modèle des choses spirituelles. Il n'y a rien qui existe sur la terre qui ne soit un modèle des choses d'en haut. C'est comme ça que Frère Branham aimait souvent la nature, parce qu'il voyait Dieu dans tout ce qu'il a créé. Que les œuvres de Dieu sont admirables. Que Dieu vous bénisse.
On va prier. Seigneur, merci car tes œuvres sont vraiment admirables. Nous ne cesserons, Père éternel, ô Dieu, de contempler tes merveilles. Et cela, Père éternel, ô Dieu, nous amène à te louer, à t'adorer, à te glorifier. Car, ô Dieu, il est dit dans la Bible que tu as créé l'homme et tu l'as fait de si peu inférieur aux anges. Et pourtant, tu l'as couronné de gloire. Car l'homme est le couronnement de ta création, Père éternel, ô Dieu. Merci pour ces moments que tu nous donnes. Aussi, aide-nous, Père éternel, ô Dieu, lorsque nous regardons, ô Dieu, que nous puissions voir, te voir, toi, au travers de ta création. Car chaque créateur a une empreinte. Et cette empreinte, on reconnaît très facilement, ô Dieu de miséricorde, qui, lorsqu'on regarde un objet, qui en est le créateur. Les hommes de science, aujourd'hui, Père éternel, parle d'un chaos, que l'homme est venu d'un chaos, mais il ne réalise pas, Père éternel, combien ils sont tout simplement égarés. Car tout ce qu'ils font est image des choses, Père éternel, que toi tu as créées. Et ils devaient au contraire glorifier Dieu. Et merci, Père, de nous avoir révélé en ces derniers âges, Père éternel, ô Dieu, toutes ces merveilles que tu as cachées, ô Dieu de miséricorde, dans ta parole. C'est vrai, parfois tu caches certaines réalités au travers des choses qui nous paraissent insignifiantes, Père. Mais c'est là que tu te caches, parce que tu es un Dieu qui agit dans la simplicité. Aussi, nous prions, Père éternel, que tu nous ouvres les yeux, Père éternel, pour contempler ta gloire au travers de toute ta création. Merci, Père, pour ce moment que tu nous as donné. Que ta grâce, que ta paix accompagne chacun de nous, Père. Et s'il y a encore des lendemains pour nous, ô Dieu, puisses-tu nous guider et nous conduire, Père éternel, ô Dieu. Que tu nous envoies l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit, Père éternel, de conseil. Nous bénissons ton nom, Père éternel, ô Dieu. Merci de te souvenir de tous nos bien-aimés pour lesquels on cesse de prier pour que tu agisses, Père éternel, ô Dieu. Que ta main s'étende et les touche, Père éternel, ô Dieu. Et nous reviendrons ici, Père éternel, glorifiant ton nom, Père éternel, lorsque nous le verrons debout, chantant et louant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour tout. Maintenant, reçois honneur, louange et gloire, alors que nous nous attendons à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.